En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Et bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, ce sont les experts à l'ancienne sur l'heure du crime, une émission spéciale consacrée au père fondateur de la police scientifique. On croyait tout savoir d'Alphonse Bertillon, l'inventeur de l'anthropométrie, ou du professeur Edmond Locard, le créateur du premier laboratoire de police scientifique au monde, ou encore d'Alexandre Lacassagne, qui fit de la médecine légale le partenaire incontournable des enquêtes criminelles modernes. Eh bien, mon invité, Philippe Marion, nous raconte ce soir des histoires à la Sherlock Holmes qui montrent comment les ancêtres des experts utilisaient une science encore toute jeune pour résoudre les énigmes criminelles les plus improbables. Alors c'est le mystère de la première malle sanglante de l'histoire du crime, résolu par Lacassagne, l'assassin confondu par Locard qui a su trouver d'infimes traces de fond de teint sous ses ongles alors que celui-ci pensait avoir réussi le crime parfait, ou encore le tueur confondu pour la première fois en France grâce à ses empreintes digitales, et même le singe dressé par un voyou pour cambrioler les bourgeois et qui finira derrière les barreaux, mais les barreaux du zoo de Lyon. Dernier détail à propos de Philippe Marion, mon invité, il sait vraiment de quoi il parle. Il est depuis 21 ans le chef de la section physique chimie du laboratoire de Lille, l'un des 5 grands laboratoires de la police nationale, et il a eu envie, et il a eu bien raison, il a eu envie de rendre hommage aux pionniers dans un livre qui est une petite merveille, Les petites histoires de la police technique et scientifique. On se retrouve tous ensemble dans quelques instants.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous. Donc très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée comme tous les soirs par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée au père fondateur de la police scientifique. Mais je voudrais quand même juste vous signaler, si vous prenez l'antenne maintenant, que l'émission sera un tout petit peu plus courte que d'habitude. Foot oblige. Mais avec plaisir, bien sûr, on retrouvera à partir de 20h45 pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Manchester United PSG, on retrouvera Eric Silvestro, Sylvain Charlet et Bertrand Latour qui nous feront vivre cette soirée de foot exceptionnelle jusqu'à 23h sur RTL. Voilà, ça c'est dit et maintenant on va parler des pionniers de la police scientifique avec mon invité Philippe Marion. Bonsoir.
Bonsoir Jacques.
Je suis ravi de vous avoir ici dans le studio d'RTL parce qu'on a reçu par la poste il y a quelques semaines ce petit livre de petites histoires de la police technique et scientifique qui est paru chez BOD Éditions et c'est un régal. Alors je vais vous faire rougir dès le début de l'émission.
Ouais, bon, c'est ça.
Mais c'est un régal, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on voit, nous qui baignons effectivement, comme vous finalement, policiers, dans ces histoires de crimes et tout, à chaque fois qu'on parle de police scientifique, on se dit, ah là là, espérons que ce ne soit pas encore un manuel. Non, ce n'est pas un manuel, c'est l'histoire racontée comme si on y était finalement, avec des histoires qui sont pour certaines très connues, mais pour d'autres parfaitement inédites, que vous racontez dans ce livre. Et c'est un livre, alors je ne me trompe pas, c'est un hommage aux 3 grands fondateurs de la police scientifique française.
Tout à fait, c'est ce que j'ai voulu faire, oui.
Hein, voilà, Alphonse Bertillon,
Alexandre Lacassagne et Edmond Locard.
Edmond Locard. Alors Edmond Locard, c'est celui qui a ouvert le... Je dis ça parce que vous êtes depuis 21 ans, vous, le chef dans les labos et au labo de Lille, donc qui est un des 5 grands... vous lui devez votre labo.
C'est l'initiateur de tous ces laboratoires de police scientifique de France, quoi, en fait.
Voilà. Le C1 à Lyon a été le premier au monde,
Sous cette forme-là, oui, c'est le premier au monde. Voilà. C'est le premier, véritablement, qui s'intéresse à tous les indices laissés sur une scène de crime.
Ouais. Et alors, on va raconter, évidemment... fait une sélection, ça a été difficile d'ailleurs de faire une sélection, mais parlons de l'époque actuelle. Votre livre est aussi finalement un hommage à vos 3 pères fondateurs, mais à travers aussi des choses très modernes, comme les experts à la télé, par exemple, parce que vous citez au tout début de votre livre un dialogue avec, alors c'est tiré des experts à Miami, saison 2, épisode 4. Il y a Horatio Caine, que tout le monde connaît, là, c'est le roux, hein, le policier roux, qui dit à un moment, il vient d'arrêter quelqu'un, et il dit « N'importe quel contact, monsieur, laisse des traces. » Ça, c'est le principe de l'opération.
principe d'échange de locard, oui.
C'est quoi déjà le principe de l'échange de locard?
Le principe d'échange de locard dit qu'en fait, tout criminel qui va commettre un crime va laisser des traces et va en emporter sur lui.
Voilà, et que ça peut se retourner contre lui, évidemment, voilà. si on sait y faire, si j'ose dire.
Tout à fait.
Et à ce moment-là, il y a le gars qui vient d'être arrêté par Horatio, il dit, mais qui c'est Edmond Locard? Et Horatio Kane lui dit, monsieur Locard, et c'est l'homme grâce à qui vous venez de vous faire arrêter. Alors c'est vrai qu'il y a un héritage, finalement, que certes, bon, on a fait des progrès considérables scientifiques, mais eux, c'était quand même, ils étaient balèzes, ces gens-là, quand même.
Ah, pour avoir pensé à, justement, rechercher toutes ces traces qui étaient laissées sur la scène de crime, mais qui n'étaient pas du tout utilisées, puisqu'on recherchait l'aveu. Oui. C'était la reine des preuves.
Hein. Bien sûr.
Et petit à petit, ce sont ces individus qui ont réussi à faire rentrer la preuve scientifique dans les tribunaux.
C'est ça, en se disant, là, on ne pourra pas contester, on ne pourrait pas dire qu'on a obtenu les aveux sous la pression. La science... Le crime peut avoir sa science, c'est le fameux de la série d'articles que Locard a écrit dans Détective, je crois.
C'est le crime, la science contre le crime.
La science contre le crime, voilà, c'est ça. Bon, et c'est vrai que à propos que Edmond Locard n'hésitait pas à fabriquer lui-même les instruments dont il avait besoin.
Oui, en fait, c'était tous les débuts de cette police scientifique. Donc, les instruments n'existaient pas vraiment. Mmh. Donc, ils ont commencé à les faire eux-mêmes en les appliquant à ce qui les intéressait, et donc ils ont fait des partenariats avec des entreprises pour les créer, en fait. C'était vraiment le début, il n'y avait pas d'entreprise pour créer des appareils scientifiques, donc ils les faisaient eux-mêmes, c'était le béaba, quoi, en fait.
Alors, vous rendez à César ce qui appartient à César, bien sûr, c'est-à-dire à nos trois fondateurs, mais évidemment, la vérité scientifique vous oblige à dire que l'empreinte digitale n'est pas une invention française.
Non, elle n'est pas française. Elle est même internationale, puisque en fait, c'est pas une seule personne qui l'a découverte, ce sont plusieurs personnes qui, dans différents pays, en Angleterre, aux États-Unis et un petit peu en France, qui se sont intéressées à cette empreinte digitale, hein, et qui sont déjà aperçues qu'en fait, l'empreinte digitale, elle était inaltérable du début de notre vie jusqu'à notre mort. Ça, c'était pas une chose qui était connue de tous.
Ouais, et ils se sont rendus compte aussi qu'il n'y avait pas deux empreintes identiques,
voilà,
finalement.
Et après, ils se sont aperçus qu'elle était différentes selon les individus, et donc ils ont commencé à les classer et à voir toutes ces différences, et donc c'est un travail, oui, quasiment international.
Voilà. Mais la première fois qu'on a résolu une histoire de crime grâce à l'analyse, au prélèvement et des empreintes digitales, ça se passe en Amérique du Sud.
En Argentine.
Oui.
En fait, c'est dans une petite ville portuaire, à Necochea, où on va retrouver le corps de deux enfants et une femme qui dit avoir été assommée par son voisin.
Ouais.
Et donc le voisin, qui s'appelle Pedro Velasquez, va être arrêté par la police. Il va nier les faits et en plus il dit qu'il a un alibi. Mais la police n'est pas très compatissante et elle va le garder et elle va essayer de lui faire avouer les choses.
Ouais.
Et c'est un policier, un inspecteur Alvarez qui vient de La Plata, qui est le chef-lieu de la province, qui va venir sur les lieux et essayer d'en apprendre un peu plus, puisque lui a été formé à l'analyse des empreintes digitales.
Ouais, par un certain
Juan Vucetich. Qui est en fait le chef de l'identité judiciaire de La Plata et qui, lui, a fait la première base de données des empreintes digitales en Argentine.
Voilà. Et alors, en examinant la scène de crime, va s'apercevoir qu'il y a une petite trace une trace de sang, pas une petite peut-être, mais une trace de sang sur l'embrasure d'une porte, je crois, avec une magnifique empreinte, digitale. Et là, il va étudier cette empreinte digitale et ça va être un coup de théâtre.
Oui, parce qu'en fait, il va demander à la comparer avec celui qui est sous les verrous et la femme qui dit avoir été assommée. Et en fait, l'empreinte digitale appartient à la femme.
Voilà. Elle a tué ses enfants.
Elle a tué ses enfants parce qu'elle voulait être épousée par son amant qui, lui, ne voulait pas s'embarrasser des enfants. Donc,
voilà, il y a à quoi les choses tiennent, quand même.
Voilà.
Petite histoire, donc, de la police scientifique avec Philippe Marion. On se retrouve dans un petit instant.
Bonjour, c'est Stéphane Bern, pardon de m'immiscer les petits curieux. Je profite de ce podcast pour vous inviter à nous rejoindre, moi et ma petite bande, pour À la bonne heure, dès 11h sur RTL, un invité tous les jours, du rire, des infos étonnantes et le plein de bonne humeur, avant de passer à table. Ce serait dommage de rater ça, non? Allez, à vous Thomas et Sidonie.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Éteins le corbeau.
La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée.
Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas toujours tenu entre les mains.
Qu'est-ce que vous dites? Vous osez m'accuser?
Vous avez tenu la couronne.
C'est vous qui avez mis la lettre.
Moi?
C'est vous.
J'ai reçu au courrier de midi une lettre anonyme. Une lettre ignoble.
Que le corbeau m'a fourni de singulières précisions sur votre manière d'administrer.
Répétez ce que vous venez de dire. Répétez-le.
La détraquée qui nous empoisonne depuis des mois, c'est vous. Le corbeau a raison. Je vous promets que celui-là n'est pas prêt de voir le jour.
Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues.
Eh oui, Le Corbeau, Henri-Georges Clouzot, film sorti en 1943 dans lequel Edmond Leclerc n'a absolument, Philippe Marion, aucun rôle.
Aucun.
Mais l'histoire d'Henri-Georges Clouzot s'inspire d'une véritable histoire de corbeau. D'ailleurs, c'est au cours de cette histoire qu'un journaliste, je crois, a inventé le mot corbeau en disant que la personne, cette femme qui était dans le box des accusés, habillée tout en noir comme ça, ressemblait à un oiseau
funèbre,
de mauvaise augure. Et c'est de là qu'est né le terme le corbeau. Alors là, c'est le corbeau de Tulle. Et c'est au tout début, c'est au moment de la Première Guerre mondiale.
Tout à fait. Hein? C'est ça. Et pendant 5 ans, en fait, un anonymographe, comme on les appelait à l'époque.
Oui. Ah, on ne disait pas encore ni un corbeau.
Non, c'est après. Et donc, ce corbeau a envoyé des centaines de lettres aux habitants de Tulle.
Ouais. Et c'était gratiné, hein, quand même.
C'était parce assez que gratiné.
Elle avait affiché sur la porte de l'église, je crois, au centre
courriers.
De Tulle, voilà. Qui couchait avec qui, en fait.
Voilà.
Alors, la femme du pharmacien avec le boulanger, etc., etc. Et ça a fait des dégâts considérables, cette affaire.
Il y a eu un décès morts, hein. Et une tentative, je crois, de suicide.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que Leclerc vient faire là-dedans, alors?
Ben en fait, Leclerc était aussi expert en écriture, et c'est lui qui sera nommé par le magistrat pour venir examiner des suspects possibles, et il va leur faire une dictée.
Voilà, il va inventer la dictée qu'on va utiliser dans l'affaire Grégory.
Tout à fait. Tout à fait. Et pendant plusieurs heures, on fait écrire des personnes pour essayer qu'en se fatiguant, qu'ils reprennent en fait leurs habitudes d'écriture.
Et c'est exactement ce qui va se passer.
Et c'est ce qui va se passer. Ouais.
Et donc, il va pouvoir identifier non pas d'ailleurs un corbeau, mais deux.
Et deux, en fait.
Parce qu'il y a la mère et la fille.
C'est ça. C'était en famille.
Voilà. Bon, voilà. Mais Edmond Leclerc, en fait, il était mis un peu, j'ai l'impression, à toutes les sauces, non, quand même, à cette époque-là.
À l'époque, je pense que c'était les experts qui faisaient un peu tout à ce moment-là.
Ouais.
Tous les champs, on va dire, des sciences se découvraient. Donc, il était expert en traces digitales, il était expert en écriture et en poussière aussi. Ouais.
Et alors, poussière, on va en parler dans un tout petit instant, mais il a écrit d'ailleurs un traité, je crois, de criminalistique.
Tout à fait.
Alors, on exagérerait en disant qu'il est toujours actuel aujourd'hui, mais enfin, le fond de ces principes continue à alimenter les enquêtes modernes, en fait.
Ah, toujours. Et même, en fait, il a écrit sur les empreintes digitales pour connaître, en fait, à partir de quel nombre de points de comparaison on peut considérer qu'une empreinte est viable,
oui,
et compatible avec un individu.
Oui, parce que surtout qu'on trouve en général des parties d'empreintes.
Voilà, c'est ça. Et donc, il avait estimé qu'il fallait 12 points de comparaison pour dire qu'un individu était compatible avec la trace retrouvée.
Ouais.
Et cette règle des 12 points, mais elle est encore valable, puisque quand on enregistre une trace au fichier automatisé des empreintes digitales, eh bien cette règle des 12 points, elle doit être validée.
Voilà. Alors, Edmond Leclerc, c'est évidemment un personnage à part. Un monsieur qui a commencé à travailler sous les combles du palais de justice de Lyon, où
oui,
il a essayé de se faire un peu de place, bon, etc. Je crois qu'il n'a jamais reçu de salaire de cette vie.
Non.
Hein, c'est quand même extraordinaire. J'ai découvert ça dans votre livre. Et puis, alors, il a cette... il avait une admiration formidable pour Sherlock Holmes, je crois.
Ah oui, c'était un grand lecteur et il a toujours reconnu qu'il adorait les aventures de Sherlock Holmes. C'est
oui,
ce qui l'a inspiré même à faire ce qu'il faisait, quoi, en fait.
Oui.
À interpréter toutes les traces qui étaient retrouvées sur une scène de crime.
Et Conan Doyle lui rend hommage dans certains épisodes de Sherlock Holmes, dans le chien des Baskerville, je crois. Ou
ah non, ça
comme...
c'est Bertillon.
Ah, c'est Bertillon.
C'est Bertillon,
ah, c'est Bertillon
qui a le droit...
On prête corrige. Ah oui, c'est Bertillon,
oui,
dont parle Conan Doyle quand il dit, y a un personnage qui dit à Sherlock Holmes, vous êtes le deuxième personnage le plus important dans la police scientifique, et l'autre et Sherlock il dit, ah bon, mais c'est qui le premier? Et il lui dit, bah, c'est un certain Alphonse Bertillon.
C'est ça.
Alors, parlons de Leclerc, parce que, effectivement, il s'est intéressé aux empreintes digitales, il s'est intéressé aux traces de sang également, enfin, à multiples choses qui composent ce sujet de la criminalité. Et il va s'intéresser également aux poussières, c'est-à-dire aux éléments qu'on peut trouver soit sur des vêtements, soit sous les ongles d'un personnage. Je vais vous laisser raconter l'énigme criminelle qu'il a réussi à résoudre alors que l'auteur pensait avoir réalisé le crime parfait. C'est une femme, la victime.
Oui, elle s'appelle Marie Latelle et elle est découverte morte chez elle alors qu'elle était en train de se démaquiller. Et le médecin légiste va estimer l'heure du décès vers 00h30. Et les soupçons vont rapidement se porter sur son petit ami avec qui elle avait eu une altercation.
Ouais.
Mais ce petit ami, il avait un alibi puisqu'il jouait aux cartes aux environs de minuit avec des amis.
Ouais.
Et Edmond Lecard va aller le visiter en prison lors de son temps de garde à vue. Et il va remarquer que sous ses ongles, il y a des traces de salissure.
Ouais.
Alors,
il va prélever ces traces.
Il va les emmener au laboratoire, il va les examiner au microscope et il va s'apercevoir que c'est une poudre un petit peu brillante, un petit peu rose. Et ça lui fait un petit peu tilt parce que lui a été sur la scène de crime et il se rappelait que Marie Latelle avait du fond de teint sur son visage et sur son cou. Ouais. Elle était étranglée. Et il se dit que ça pourrait correspondre à ça.
Ouais.
Donc il va retourner chez elle, essayer de voir s'il ne trouve pas un produit de fond de teint. Il va le trouver, il va même trouver le nom du fabricant,
ouais,
qui est un pharmacien de Lyon.
Ouais.
Il va aller le voir, ouais, pour lui demander de quels ingrédients sont présents.
Ah oui, il a la composition du fond de teint qui a été fait spécialement pour cette femme.
Voilà, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les grandes marques de produits.
Bien sûr,
Et donc là, en fait, il va rechercher justement sous les traces d'Émile Gourbin l'ensemble de ses constituants et il va les mettre en évidence.
Voilà.
Et là, il, dans sa tête, va germer l'idée que si quelqu'un a étranglé Marie Latelle, en fait, il y a eu contact, et que donc le fond de teint qui était présent sur son cou a dû se déposer sur les doigts, et plus particulièrement sous les ongles de son assassin, et donc pour lui, Émile Gourbin, c'est l'assassin de Marie Latelle.
Et pourtant, Émile Gourbin a un alibi, j'allais dire, en béton. Il jouait aux cartes, il y avait une horloge dans la pièce, et les joueurs ont pu confirmer qu'à l'heure du crime, ils étaient là.
Tout à fait. Mais devant la preuve, en fait, il va avouer qu'il avait simplement reculé d'une heure l'aiguille de son horloge.
Il fallait quand même y penser, franchement.
Ah oui.
C'était quand même pas mal, quoi. Voilà, donc comment on échappe à un crime parfait. Le crime n'a été que presque parfait. On a le temps de raconter une autre histoire. Je m'adresse à Marc Bisset. Non, après, d'accord. Alors on fait une petite pause dans cette émission et on se retrouve avec Philippe Marion dans un tout petit instant.
L'heure du crime.
Jacques Pradel.
Jusqu'à 21h sur RTL.
Arrêtez !
Le fils d'assassin ne communiera jamais avec nos enfants.
L'assassin, il est arrêté, l'assassin ! Il est sous les verrous !
Vous êtes un roublard, monsieur le juge. Il fait grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous.
L'innocente ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu.
Autant aujourd'hui que demain.
Rousseau ! Assassin ! Rousseau ! Assassin ! Rousseau ! Assassin ! Rousseau !
Il dit que nous sommes tous des meurtriers au moins en puissance. Mais ce besoin du crime, nous le canalisons par des moyens légaux.
Comment vous sentez-vous, Bouvier ?
Innocent, mon juge, puisque c'est Dieu qui a tout voulu.
T'avais une grande dévotion pour la Vierge.
C'est la femme de tous ceux qui n'en ont pas.
C'est un paysan rusé qui essaie de me rouler, et moi, je fais semblant de marcher.
Moi, ça fait 2 ans que je marche à travers la France comme un forcené. Et le soleil qui frappait ma pauvre tête.
C'était pas vrai, s'il inventait tout ça.
C'est tout de même un anormal.
Si on ne guillotinait pas ces anormaux, ça serait le bordel.
Il pleure.
On croirait des larmes.
Et s'il pleurait, l'ami l'a trahi.
Quel ami ?
Michel Galabru, Philippe Noiret, le film de Bertrand Tavernier, le juge et l'assassin, qui s'inspire d'une histoire vraie, de l'histoire de Joseph Vacher, qu'on a surnommé le tueur de bergers ou de bergères, mais on sait aussi le Jack l'éventreur du Sud-Est, enfin bref, c'était un personnage très peu fréquentable, Philippe Marion, et en fait, en lisant votre livre, puisque ce qui nous donne l'occasion de cette conversation ce soir, c'est ce petit livre que vous venez de publié Petites histoires de la police technique et scientifique, qui est paru chez BOD Éditions. Vous parlez, à propos de l'affaire de Joseph Vacher, d'Alexandre Lacassagne. Alors, il faut qu'on fasse quand même un mini-portrait de cet homme, parce que là, dans l'affaire Vacher, il va faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de la psychocriminologie, mais c'est avant tout le fondateur de la médecine légale. C'est un médecin légiste au départ.
Tout à fait, c'est un médecin légiste et qui s'est aussi intéressé à la criminologie, puisque c'est l'un des premiers criminologues français. Ouais. Et c'est lui qui a aidé à créer la première revue de criminologie française.
Ouais.
Et puis aussi, il s'intéressait à tout ce qui était... à côté de l'autopsie, c'était tous les indices qu'on retrouvait sur une scène de crime, mais il s'y est aussi intéressé.
Ouais. Alors Joseph Vacher, considéré comme le premier tueur en série français de l'époque moderne, on va dire, un personnage qui avait pas toute sa tête. Hein. Il faut bien dire que son procès a posé la question de savoir s'il fallait juger les fous, mais peut-être qu'il n'était pas si fou que ça non plus. Enfin, c'est compliqué.
C'est compliqué,
avec le recul. Mais c'est un itinérant. C'est quelqu'un qui fait une sorte de tour de France, comme ça, et qui va émailler son périple de crimes tous plus horribles les uns que les autres, et en priorité des jeunes filles, des très jeunes filles, ou des très jeunes garçons, c'est pour ça, les bergers, parce que les enfants, à cette époque-là, ils gardent des animaux, souvent, dans la campagne. Alors, quel va être le rôle d'Alexandre Lacassagne dans cette affaire ?
Bien, justement, en fait, comme le problème, c'est de savoir si Vacher est responsable ou non de ses actes. Et comme il y avait déjà eu des premières expertises qui disaient qu'il n'avait pas toute sa tête, en fait, le magistrat a nommé Alexandre Lacassagne, ainsi que deux autres médecins, pour faire une étude psychologique de cet assassin.
D'accord, parce qu'il n'y avait pas de psychiatre à l'époque. La psychiatrie,
c'était vraiment les balbutiements.
Mais Lacassagne était déjà expert auprès des tribunaux, en fait.
Oui, comme il était criminologue, en fait, ça faisait partie de sa compétence.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit sur Vacher ?
Alors, ce qu'ils disent sur Vacher, c'est qu'en fait, lui et les deux autres médecins vont aller voir Vacher en prison plusieurs fois. Tous les mois, ils allaient le voir au moins deux fois. Et ils ont fait un recueil pour chaque crime. Ils ont fait un petit peu ce que font les esprits criminels, c'est-à-dire qu'ils ont véritablement donné le mode opératoire, la typologie des victimes. Et ils ont même remarqué que lors d'un des meurtres qui s'était passé dans une maison, Joseph Vacher avait fermé la porte de la maison à clé et jeté la clé.
Donc sa conscience n'était pas forcément abolie, comme on dirait aujourd'hui.
Voilà, c'est ce qui leur faisait dire que Joseph Vacher était responsable de ses actes. Voilà.
Et il pouvait y avoir préméditation dans les actes de Vacher. Voilà. Et on doit ça donc à Alexandre Lacassagne.
C'est ça. Ouais.
Alors, il y a d'autres histoires que vous racontez dans votre livre sur Alexandre Lacassagne, et une que personnellement je croyais connaître, mais alors pas du tout finalement, c'est la première malle sanglante de l'histoire du crime, la malle de Maillerie, qu'on appelle aussi la malle à gouffer. C'était même à un moment un jouet d'enfant qu'on vendait au coin des rues, parce que ça avait frappé les imaginations, évidemment, la malle sanglante. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui va disparaître, sa disparition va être signalée par sa famille, c'est un notaire je crois, ou un huissier de justice, voilà, et puis cet homme disparaît, et quelques temps plus tard, on va retrouver, mais très loin de Paris, une malle en osier qui est abîmée, qui a été déchiquetée, et puis un peu plus loin, on va trouver le corps qui était dans cette malle, mais le corps est tellement dégradé qu'on n'arrive pas, même si les policiers ont déjà l'idée qu'il y a un lien peut-être entre la disparition de Paris et le corps qu'on a trouvé dans cette malle. Encore faudrait-il une analyse scientifique. Et on va confier ça à Alexandre Lacassagne.
C'est ça. Et là, Alexandre Lacassagne va véritablement faire une véritable autopsie modèle, puisqu'il va demander au juge d'instruction tous les éléments possibles pour faire la comparaison avec le possible...
Il veut tout savoir sur
tout savoir.
La victime.
Voilà. Il va demander à voir les dossiers du dentiste de Gouffet, les dossiers médicaux, même le diagramme de son chapelier pour avoir la forme du crâne.
Ouais.
Et il va même faire prélever une brosse à cheveux dans l'appartement de Gouffet pour comparer les cheveux
qui restent sur le cadavre. Voilà. Parce que le cadavre est extrêmement dégradé, donc en fait, il travaille sur un squelette, quoi.
C'est ça. Ouais. Il va travailler sur un squelette et il va faire, comme dans les séries Bones à la télé, il va reconstituer toutes les mesures du corps. Il va s'apercevoir qu'il y a la jambe droite est plus fragile que la jambe gauche, comme avait Gouffet. Ouais. Et il va retrouver trouvé, dans sa conclusion d'expertise, il y a une petite quinzaine de remarques qui font qu'à la fin, il dit ce corps inconnu, eh bien, c'est celui de Toussaint Gouffet. Voilà, et exactement. En plus, il va dire de quoi il est mort, c'est-à-dire qu'il a été étranglé.
Qu'il a été étranglé, effectivement. Alors, les auteurs, on va pas. Moi, je renvoie tout le monde à votre livre parce que c'est une histoire, c'est un feuilleton. Hein,
c'est un feuilleton.
C'est presque un feuilleton télé, bon, avec personnages qu'on va arrêter à Cuba, une complice qui, elle, va dire mais j'ai été hypnotisé, je suis pas responsable, etc. Mais en tout cas, il y a un procès, et au procès, la Cassagne, paraît-il, a stupéfait le jury et le magistrat.
Oui. Là, c'est véritablement quasiment la première autopsie. C'est ce qu'ils appelleront une vraie autopsie, quoi, en fait. Voilà. C'est ce qui va montrer que c'est extrêmement important dans une enquête criminelle.
Du grand art, autrement dit. Alors, on va faire une pause. Au passage, je vous rappelle que l'émission ne va pas jusqu'à 21h ce soir, mais à 20h45, on rend l'antenne pour une soirée foot. Mais d'ici là, et après la pause qui vient maintenant, eh bien, on va renverser un petit peu les termes du problème. Et je vais vous raconter une histoire grâce aussi à un document RTL signé Jean-Alphonse Richard. Et vous allez voir que parfois, il y a également des criminels qui adorent la télé et qui s'inspirent, qui vont chercher leur scénario finalement en regardant les grands feuilletons de télé comme les experts.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Non, vous êtes bien à la radio, c'est pas à la télé, même si c'est vraiment la musique qui, pendant des années, a passionné les téléspectateurs français avec les experts à Miami. Philippe Marion, vous allez entendre maintenant Jean-Alphonse Richard, qui est le chef du service police-justice d'RTL, et qui a raconté en août 2008 une histoire incroyable, mais vraie, l'histoire d'une jeune femme qui est une étudiante de 22 ans, qui a été retrouvée, c'est un crime horrible, hein, égorgée à l'arme blanche chez elle à Maison Alfort. Et dès leur arrivée sur place, les policiers vont constater que l'appartement a été très soigneusement nettoyé, comme dans les experts à la télé, mais que le cadavre a été lavé à l'eau douce et qu'il n'y a plus de traces de sang dans l'appartement. Quelques jours plus tard, donc, Jean-Alphonse Richard raconte sur RTL comment, c'est une histoire très morale, hein, mon histoire, comment l'assassin a été confondu quand même.
Au départ, cette macabre découverte le 29 août dans un appartement de Maison Alfort dans le Val-de-Marne, celui du corps sans vie d'une étudiante de 22 ans. Marine a été tuée selon un étrange scénario. Son meurtrier l'a égorgée à l'aide d'un instrument tranchant, puis s'est livré au ménage complet de l'appartement. Tout a été récuré et aseptisé au dissolvant. Le corps de la victime a lui été déshabillé totalement et nettoyé dans la baignoire. Les habits ont disparu. La moindre empreinte, la moindre trace ADN n'ont pas résisté au lessivage. Il n'y a donc rien pour identifier l'assassin. Rien, sauf un détail troublant. Aucune trace d'effraction sur la porte et les fenêtres. Le crime pourrait donc être l'œuvre d'un familier. La brigade criminelle retient vite un suspect. Kamel, 28 ans, c'est l'ex-petit ami de Marine, déjà fiché pour violence. Il est arrêté à Lyon. Il nie, puis avoue avoir tué par jalousie. Passionné de séries télé, il ajoute qu'il s'est directement inspiré de l'épisode numéro 12 des Experts Miami saison 1 pour commettre le meurtre. Même lessivage, même mise en scène. L'épisode était baptisé « Une empreinte de trop ». Là, ça n'est pas une empreinte qui a perdu Kamel, mais le simple fait d'avoir tiré la porte derrière lui.
Voilà, Jean-Alphonse Richard qui a raconté cette histoire. Alors, pour terminer notre émission, Philippe Marion, je voudrais que on revienne aux empreintes digitales et au personnage d'Edmond Locard. Je disais qu'on le mettait un peu à toutes les sauces des enquêtes. Quand on trouvait pas, on allait chercher Locard. Bon. Et alors, vous racontez cette histoire qui est magnifique dans votre livre. À Lyon, il y a une série de cambriolages dans une rue et il y a beaucoup d'appartements qui sont visités par ce qu'on appelait à l'époque des montants l'air. C'est-à-dire des gens qui escaladaient la façade. Bon. Et là, racontez-moi la suite, parce que c'est vraiment Edmond Locard qui va résoudre ce mystère.
Tout à fait. Donc il faudra attendre l'un des cambriolages pour retrouver une empreinte digitale. Donc là, les gens du laboratoire vont venir prélever cette empreinte digitale, l'emmener au laboratoire pour la comparer au fichier, et essayer d'identifier le voleur. Et là, non seulement ça correspond à aucune empreinte qui existe au sein du fichier, mais en plus...
Et on dit pudiquement, les experts disent que c'était une empreinte atypique.
Voilà, c'est une empreinte atypique parce qu'elle n'est pas comme une empreinte humaine. Et Edmond Locard, eh bien, grâce à ses connaissances scientifiques, va se rappeler avoir lu une publication sur les empreintes des primates.
Parce que les singes ont aussi des empreintes digitales, mais elles sont légèrement différentes des empreintes humaines.
Ouais. Et donc, on va faire venir au laboratoire eh bien, tous les détenteurs de singes de l'agglomération lyonnaise, et on va prendre les empreintes digitales des singes. Alors, il semblerait que ça ne soit pas passé très très facilement, puisque les singes ne devaient pas beaucoup aimer.
Ils n'étaient pas d'accord. Oui.
Non, ils n'étaient pas d'accord, donc il y a eu griffure et morsure. Ouais. Mais à la fin, on a réussi à trouver le bon singe.
Ouais.
On a donc découvert le bon propriétaire, et en perquisition dans chez lui... On a retrouvé le butin.
Des bijoux, des butins, etc. Voilà. Il avait dressé son singe à faire des cambriolages.
Tout à fait.
Voilà. Quand même assez extraordinaire comme histoire. À propos d'empreintes digitales, puisqu'on y est, on va y rester pour une toute dernière histoire que vous racontez dans votre livre. En fait, Bertillon, Alphonse Bertillon, il ne croyait pas trop au succès futur des empreintes digitales.
Non, pas beaucoup. Il trouvait ça très compliqué par rapport à son anthropométrie.
Ouais. Et il croyait que c'était mieux, l'anthropométrie.
C'est ça. Ouais. Là, c'était lui qui l'avait... Ouais.
L'anthropométrie, c'était mesurer...
Mesurer le corps, en fait. Le corps, voilà. Différentes dimensions du corps humain.
Ouais. Et je disais, bon, les empreintes digitales, bon, ça va pas... Ça va se démoder un jour.
Sûrement.
Et en fait, ce qui est extraordinaire, et vous racontez l'histoire, c'est lui, Alphonse Bertillon, qui va arrêter un criminel sur la foi d'une empreinte digitale retrouvée
c'est
sur
ça.
La scène de crime.
Ce sera la première fois où on va arrêter un individu parce qu'on aura trouvé une empreinte digitale sur une scène de crime et l'avoir comparée à un fichier.
Voilà.
Et c'est lui qui va le faire en 1902.
Voilà, et c'est l'affaire Schaeffer, qui est célébrissime dans les milieux des scientifiques et des experts, évidemment. Ça fait partie vraiment des grandes histoires qu'on se raconte. Je vous remercie beaucoup, Philippe Marion, c'était absolument passionnant. Je vous rends à votre laboratoire où, là, vous êtes loin de Bertillon-Locard, quoique, finalement, vous devez penser à eux plusieurs fois par jour.
Oh oui.
Je vous remercie beaucoup. Petites histoires de la police technique et scientifique, c'est un petit bijou que je vous recommande et c'est paru chez BOD Édition. On va mettre évidemment toutes ces coordonnées sur rtl.fr à la page de l'heure du crime. Je vous souhaite une très très bonne soirée sur RTL, émission un petit peu plus courte que d'habitude ce soir, mais c'est pour la bonne cause. L'émission est donc maintenant terminée.